Le docteur François Marquis est avec nous. Je ne sais pas s'il aime le hockey. Bonjour, monsieur docteur Marquis. Comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien, vous autres.
Docteur Marquis, êtes-vous un fan du Canadien?
Mais en fait, j'aime bien le Canadien. J'aime aller voir les matchs, mais honnêtement, je suis pas le fan le plus assidu devant le téléviseur.
Bon. Vous avez d'autres priorités de toute façon.
Oui.
Alors, mais ça se passe... Écoutez, un commentaire dans l'ensemble. Ce tournoi de hockey de la Ligue nationale se déroule bien avec les deux Villebulles. Il n'y a pas eu un seul cas de transmission du coronavirus.
Oui, puis ça, je pense que c'est ça montre qu'avec des solutions originales, la vie peut continuer. Puis c'est certain que dans 5 ans ou dans 10 ans, on va regarder tous ces événements-là avec un autre œil. Ça va avoir marqué notre époque, mais je pense que ça démontre que le déconfinement intelligent est quelque chose de possible.
Mais là, j'aime pas ce que vous venez de dire. Vous avez dit dans 5 ans, 10 ans, alors qu'hier, l'Organisation mondiale de la santé espère en finir avec la pandémie en moins de 2 ans.
Oui, mais c'est parce que ça va prendre un certain moment avant. C'est un peu toutes les choses dans la vie qui sont un peu traumatisantes ou qui sont attachées à des souvenirs très négatifs. Ça prend quand même une période après un peu là pour que notre cerveau se mette à voir des licornes puis que on regarde ça un peu avec le sourire là. Je pense que c'était plus ça là mon délai, c'était pour dire ça va nous prendre un petit temps de repos loin de tout ça pour prendre une perspective extérieure. Puis là il y a des historiens puis il y a des sociologues puis qui vont se mettre à regarder ça puis qui vont parler de la grande pandémie de 2020 là.
Ouais, comme on a parlé pendant longtemps de la grande pandémie de la grippe dite espagnole qui s'est étirée à peu près de 1918 à la fin de 2020, c'est-à-dire 1920.
Mm-hmm. Ouais. Ça va être exactement le même principe. Comme aussi aujourd'hui, on regarde d'un œil fort différent le début de l'ère VIH-SIDA, où à l'époque, moi je me rappelle, là, j'étais naturellement beaucoup plus jeune, et là c'était la panique, on pouvait attraper ça sur des poignées de porte, il n'y a plus personne qui allait nulle part. Et on regarde ça avec un œil différent, même si ça demeure un événement très marquant là, de la fin du 20e siècle.
Ce qui est décourageant, docteur Marquis, c'est que le VIH est toujours présent, il n'y a toujours pas de vaccin 40 ans plus tard, et le SIDA, la maladie qui découle du virus du VIH, fait encore des centaines de milliers de victimes à travers le monde, et on n'en parle plus.
Oui, effectivement, et je pense que le VIH-SIDA nous rapporte à une réalité que ce n'est pas tous les virus pour lesquels on est capable, et on peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été faits, mais on n'a pas été capable de développer de vaccins, et donc cette obligation-là que les gens disent « Ah, maladie infectieuse égale vaccin dans un certain nombre d'années » n'est pas une équation automatique.
Un jeune homme de 19 ans est devenu la plus jeune victime de la COVID au Québec. C'est vraiment triste. Don Benny Kabangu Nsampu a péri, c'est-à-dire il est mort après des complications liées à la COVID-19. Est-ce que vous croyez, docteur Marquis, qu'on peut considérer ça comme un cas isolé dans ce groupe d'âge, 19 ans seulement, ou si ce n'est pas un avertissement que la COVID, effectivement, peut toucher la jeune génération?
En fait, je pense que c'est définitivement ce qu'on appelle en français un reality check pour les plus jeunes. C'était attendu. C'est une question qui est statistique. C'est beaucoup plus rare chez les jeunes, mais présentement, notre virus de la COVID, qui est un virus d'opportunité, ne peut plus aller facilement chez les personnes vulnérables. C'est qu'il va se tourner vers les gens qui font pas attention. Et présentement, la majorité des infections nouvelles sont chez des patients qui sont plus jeune. Donc, si quelque chose est rare, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'infections, bien, on finit par voir ces effets secondaires rares-là, comme le décès. Et on se rappelle que, et c'est un peu ça, quand on dit, c'est on peut mourir de la COVID, donc vraiment dans les premiers jours, ou on peut mourir de la condition dans laquelle la COVID nous a laissés. Et chez le jeune, c'est ça qui est le plus à craindre. Est-ce qu'il va passer à travers les premiers jours de l'infection, au moment où le virus est le plus agressif, il y a beaucoup plus de chances, mais est-ce qu'il va rester après ça avec des pneumonies nécrosantes? Est-ce qu'il va rester avec tellement de faiblesse qu'il va s'étouffer dans ses sécrétions et développer des nouvelles pneumonies? Et c'est toutes ces complications-là que le jeune, qui a peut-être initialement survécu, risque là, de succomber.
Alors, c'est quand même un avertissement que la COVID, comme vous venez de le dire d'ailleurs, peut, je parle de la maladie là, peut évoluer d'une façon complètement différente d'un individu à l'autre. On a vu cette semaine le témoignage d'une patiente qui a dit « ça fait un mois que j'ai eu la COVID-19 et j'ai encore des problèmes de goût et d'odorat ».
Oui, et ça, faut pas oublier que la mortalité est une chose, mais toute la morbidité, donc les conséquences à long terme, c'est une autre série de problèmes. Et chez le jeune, qui a plus de chances de survivre, même si chez le jeune, on risque encore d'avoir d'autres décès. Quant à moi, c'est la pointe de l'iceberg. Il pourrait très bien en avoir d'autres dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faut pas oublier que si à 20 ans, pour dire quelque chose, tu deviens anosmique, c'est un handicap extrêmement grave pour le reste de ta vie. Ça va briser des vies. Et les gens qui nous parlent de faiblesse, de syndrome post-traumatique, de difficultés respiratoires, toutes ces choses-là, dans la plupart des cas, devraient rentrer dans l'ordre. Est-ce que ça va rentrer dans l'ordre pour tous? On ne peut pas le garantir. Il se peut très bien qu'il y ait des gens qui restent anosmiques, incapables de sentir et de goûter pour le reste de leur vie. On ne le sait pas.
C'est ça qui est encore parmi les mystères. On a appris beaucoup de choses depuis, vous allez en convenir, Dr Marquis, depuis ce qu'on pourrait appeler ici la première vague, là, c'est-à-dire depuis le mois de mars. On a appris beaucoup de choses, mais ce virus, ce coronavirus, et l'évolution de sa maladie, la COVID, appelons-la 19, au début on l'appelait comme ça, nous surprend encore.
Ben oui, parce que y a des choses qui prennent du recul. On ne peut pas présentement regarder, par exemple, le code génétique du virus et dire « Ah, les manifestations dans la réalité du virus vont être X, Y, Z ». On peut pas faire ça. Donc, on commence à bien connaître la maladie aiguë. Donc, vraiment, le premier pic viral, disons, la première semaine et demie, deux semaines, on sait très bien comment ça se passe. Je dis pas qu'on connaît parfaitement, mais on en a une très bonne idée. Et on est rendu relativement bon pour traiter ces patients-là. Mais maintenant, les complications rares, les complications à long terme, ben ça le dit, à long terme. Et il n'y a toujours pas de long terme.
Ben c'est ça, il n'y a toujours pas de long terme. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Et quand l'OMS nous dit « on en aura terminé avec cette pandémie », d'ici deux ans, ben, il va falloir qu'il y ait l'apparition, très certainement, d'une médication ou de médications au pluriel et l'apparition de vaccins. Et c'est la raison pour laquelle je vous amène tout de suite, Dr Marquis, sur les résultats de ce sondage.
Mm-hmm.
On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui craignent l'arrivée d'un vaccin et une vaccination dans un court délai après l'approbation d'un ou deux vaccins. Un tiers des gens disent je vais attendre pour voir comment ceux et celles qui ont été vaccinés n'auront pas d'effets secondaires. Mais c'est encore plus radical. Il y a 15 % des répondants qui disent « Moi, je ne me ferai pas vacciner ». Et comme ce sera sur une base non pas obligatoire, mais volontaire, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'évolution du coronavirus et de la transmission quand on aura la présence d'un vaccin?
Bon, la première chose que ça veut dire, c'est que si on a encore ces fantasmes d'éradication, comme on a très bien réussi avec la variole ou avec la polio, s'il y a 15 % des gens qui ne se font pas vacciner, on peut tout de suite oublier le rêve de l'éradication. Ce qui veut dire qu'on va rester pris à long terme avec des éclosions de coronavirus tant et aussi longtemps que il n'y aura pas une immunité collective à 100% ou que tout le monde ne sera pas vacciné dans une génération. Pour ce qui est des gens qui hésitent, honnêtement, je trouve que c'est un demi-problème parce qu'il est à peu près impossible de considérer qu'on va avoir le nombre de doses nécessaires pour vacciner tout le monde en même temps. Donc, ce qui va être important, c'est quand les premières doses vont sortir, on va vacciner ceux qui ont confiance. Et il faut comprendre que le processus de création d'un vaccin, c'est pas des apprentis sorciers qui se mettent à mélanger n'importe quoi puis qui disent « Hey, on va essayer ça sur quelqu'un ». C'est des processus extrêmement rigoureux. Et ça, ce processus et cette rigueur-là n'est malheureusement pas mise en avant, alors que les anti-vaccins, eux autres, peuvent répandre leurs opinions et, pour la plupart, leurs inventions à qui mieux. Et ça, il y a une disparité dans la force, disons, de publicité.
Mais docteur Marquis, écoutez, il y a eu des cas, et je vais vous ramener à 1976. Le président américain Gerald Ford était paniqué à l'idée que la grippe porcine allait se transformer en pandémie, avec des résultats catastrophiques aux États-Unis. Et on a procédé à la mise en marché, et surtout d'abord la création, en sautant toutes les étapes ou en les accélérant. Et puis on s'est aperçu que le fameux vaccin de la grippe porcine a donné lieu à des centaines de cas du syndrome de Guillain-Barré, une maladie quand même très grave, pour s'apercevoir que finalement, au bout du compte, le vaccin avait été produit trop rapidement, approuvé trop rapidement et avec des effets secondaires catastrophiques pour certaines personnes.
Effectivement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'y a pas juste une compagnie qui est en lice pour développer ces vaccins-là, et qu'on peut compter sur une compagnie pour essayer de démolir le vaccin de l'autre compagnie. C'est que ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, ces vaccins-là sont approuvés à travers des études qui ont différentes phases, et je crois que le mécanisme d'approbation des médicaments et des vaccins, sans qu'il soit absolument parfait, parce qu'il n'existe pas un processus qui est parfait, est beaucoup plus rigoureux qu'il n'a jamais été. Et moi, j'ai confiance là-dessus, parce que cette espèce d'urgence-là de mettre sur le marché un vaccin doit être contrebalancée aussi avec, tu sais, dans les grands scandales de l'industrie médicale puis pharmaceutique, toutes les compagnies qui ont mis des choses qui n'étaient pas au point sur le marché, il n'y en a pas une qui s'est relevée facilement de ça. Les compagnies en sont très, très, très conscientes.
Mais docteur Marquis, dans l'histoire des pharmacies, des pharmaceutiques et ce qu'on pourrait appeler le milieu médical, il y a eu des horreurs. Rappelez-vous la thalidomide au début des années 60, qui avait été littéralement un désastre.
Oui, mais à cette époque-là, effectivement, on n'avait pas non plus ces mécanismes d'étude, de vérification par les pairs. Regardez un peu, là, quand on a eu, là, on va se ramener à notre réalité temporelle, on peut garder ça à l'intérieur de notre propre petite pandémie. Quand on a commencé à regarder différents médicaments et qu'on a eu tout de suite des gens qui ont voulu utiliser certains médicaments à qui mieux, sans étude, vous avez vu la force de toute la communauté médicale qui a dit « c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Et effectivement, plusieurs de ces médicaments-là ont rapidement été prouvés inefficaces. Le vaccin, le but de développer un vaccin, c'est d'y aller avec des études, tester selon les phases, après ça, les essayer sur une série une petite série d'individus. C'est pas un mécanisme qui est 100% à l'abri de tous les problèmes, mais ça nous permet, pour tous les médicaments, d'éliminer tous les effets secondaires fréquents. Et s'il y a un effet secondaire triste, mais extraordinairement rare, là, la question, c'est de voir, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir une chance sur 1 million de développer un Guillain-Barré contrebalance, pour dire quelque chose, une chance sur 10 de mourir de la maladie? Et donc, au début, il va avoir, pour tous les médicaments, c'est la même chose. Il va y avoir une série de personnes qui sont prêtes, qui vont lire les études, qui vont dire « j'ai confiance et j'ai surtout plus peur de la maladie que du vaccin, donc je vais prendre le vaccin ». Ceux qui doutent vont être vaccinés, eux, dans la deuxième vague. Quand on a eu la H1N1, on a eu un peu le même principe. Il y a des gens qui sont rapidement fait vacciner puis qui ont eu les bénéfices du vaccin. Il y en a qui ont, comme on dit, branlé dans le manche un peu. Après ça, ils sont vaccinés. Ceux chez qui on doit travailler, c'est ceux qui disent, les irréductibles, ceux qui disent « je ne veux pas du vaccin ». Il faut comprendre qu'une bonne partie de ceux-là ont eu des informations erronées qui viennent de toutes sortes d'informations fiables.
Mais, docteur Marquis, ils sont nombreux. 15% de... Enfin, c'est un sondage, vous allez me dire.
Mais 15%, mais ça démontre qu'il y a un problème réel. On le savait, ça. Parce que un des problèmes, c'est que il y a plus vraiment de mémoire collective des grandes maladies infectieuses, parce que maintenant, on a des vaccins. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'était dans ce sondage-là, la proportion d'acceptation du vaccin augmentait avec la scolarité et avec l'âge. Donc, des gens qui ont potentiellement vu des maladies infectieuses graves dans leur jeunesse, puis qui ont probablement eu des frères, des sœurs, des membres de leur famille, sont morts de ces maladies-là et qui voient à quel point les vaccins ont sauvé une bonne partie de l'humanité. Et quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans ou 30 ans aujourd'hui n'a peut-être pas vu ça. Donc, pour eux autres, c'est des faux problèmes. Ouais. Et le vaccin est une solution inutile à un problème qui n'existe pas.
Alors, pour l'instant, Dr. Marquis, il y a 7 laboratoires qui sont en phase 3. Et certains de ces laboratoires, parmi les 7, sont en avance plus qu'un autre. Et il y a au total près de 200 laboratoires qui cherchent spécifiquement une thérapie, mais en tout cas très certainement essentiellement des vaccins. Ce qui veut dire que dans les prochains mois, Dr. Marquis, il y aura ce moment, cette rencontre, où les autorités médicales, ici au Canada, c'est Santé Canada, auront des décisions extrêmement importantes à prendre avant même qu'on rende disponibles ces vaccins-là.
Oui, tout à fait. Et il faut comprendre que dans un processus de phase 1, phase 2, phase 3, Santé Canada a déjà le nez dans l'étude. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas le genre, la compagnie fait ses petites affaires dans son coin, puis à un moment donné, développe un produit. Santé Canada, comme la FDA, a déjà, ces grands organismes-là ont déjà leur nez dans ces protocoles-là. Il y a déjà à l'intérieur des protocoles des moments clés, hein, qu'on appelle des moments de surveillance où on analyse des blocs de patients pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y avait un problème grave avec un vaccin, puis qu'on a décidé qu'on aurait une phase 3 avec 1000 personnes, puis qu'après 200 personnes, on sait qu'il y a un problème, on ne va pas recruter les autres 800. Et ma même chose, c'est que si on se rendait compte qu'après 250 patients, le vaccin est extraordinairement efficace, bien, ça se pourrait qu'on ne se rende pas jusqu'à 1000, parce qu'on est déjà capable, avec 200 patients, de prouver qu'il est efficace. Mmh. Et tous ces mécanismes-là, présentement, ils fonctionnent. Il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il y a une mise en marché, il y a une quatrième phase aux études que les gens oublient, qui sont les études de mise en marché, où, par exemple, si vous faites une étude de phase 3 qui a 1000 patients dedans, mais qui a un effet secondaire qui arrive seulement une fois sur 1 million, mais tant que vous n'aurez pas donné 1 million de doses, vous ne le verrez pas, votre effet secondaire.
Ben c'est vrai, ça va prendre du temps.
Exactement. Donc, les études de phase 4 auxquelles tous les médecins participent habituellement dans leur carrière, c'est que si on a quelqu'un qui prend un vaccin, un médicament, qui a eu une intervention chirurgicale et qui développe quelque chose qui un peu qui nous met la puce à l'oreille, on le rapporte à Santé Canada pour dire, écoutez, cette personne-là a pris ce médicament-là, a eu un drôle d'effet secondaire que je peux pas rattacher avec un autre de médicament parce qu'il prenait pas d'autres médicaments. Et là, Santé Canada ramasse ça, puis si à un moment donné, ils se disent, gardons ça, on dirait que ce médicament-là ou cette thérapie-là a un effet secondaire très rare, il va le rajouter à la monographie. Mmh. La monographie étant un peu la carte de visite d'une molécule qui va nous dire, ben voici, ce médicament-là, cette thérapie-là, ce vaccin-là a les effets positifs suivants et on doit surveiller les choses suivantes et a les effets secondaires suivants. Donc, c'est trois éléments importants qu'on trouve dans une monographie et c'est ça l'étude de phase 4 nous permet d'aller chercher les choses plus rares. Donc, là-dedans, là, le message à retenir, c'est que quand un vaccin est mis sur le marché, même si présentement c'est une course à développer le vaccin, l'étude, la mise en marché, l'analyse du vaccin ne sera pas quelque chose qui va être botché. On n'a pas le choix. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vies qui en dépendent. Et croyez-moi, ceux qui trippent sur les conspirations, il y a tellement de gens avec des intérêts là-dedans qui sont différents. Il ne peut pas en avoir de conspiration, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui ne pourra pas mettre un vaccin conspirationniste sur le marché sans qu'il y ait au moins 10 autres personnes qui s'en rendent compte, là.
Docteur Marquis, toujours très intéressant. Merci de nous avoir parlé, François Marquis, ce matin.
Merci, c'est un petit peu plus lourd que le hockey, par exemple.
Ben, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas parler rien de hockey. Merci, Docteur Marquis. Au retour, quelle semaine pour les démocrates? Ils sont en feu. Ils ont eu leur convention interactive. Mm-hmm. À vous,
juste un regard. Juste un œil, oui, absolument.
Là-dessus?
Juste un œil, c'est plus ou moins plus ou moins intéressant. J'ai pas trouvé ça
Non, mais je pas trouvé ça. Mais la semaine prochaine, c'est au tour des Républicains. Oui. Et avec Donald Trump. En général.
Mais j'ai hâte.
En général, ça risque de faire des feux d'artifice.